Comme il venait de nous le dire, voilà, moi je suis Asensio Fabri, je suis éducateur spécialisé au XAPA et MT Arc-en-Ciel. Voilà, je présenterai un peu plus rapidement le lieu tout à l'heure.
Et moi je suis Mélissa Lifa et je suis coordinatrice du SAO 1825 de l'association GAM, du pôle accueil GAM. Et voilà. C'est donc Émilie qui est venue nous voir pour qu'on fasse un petit retour, non pas que Émilie et Dr Michulam, pour d'abord qu'on fasse un retour d'expérience sur la création d'un lieu qu'on a fait tous ensemble. Et puis après on nous a dit que c'était 50 minutes, donc beaucoup de stress, mais ça va bien se passer.
Donc ouais, un témoignage un peu de notre expérience, parce qu'on la trouve, voilà. En tout cas nous, en tant que professionnels, elle nous a amené du frais dans nos pratiques, du frais dans nos manières d'aborder tous ces sujets-là, et donc on voulait un peu la partager avec vous aujourd'hui. Donc rapidement, on veut quand même présenter de là où on parle. Donc ça, c'est un peu ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Donc présentation des lieux, puis ensuite le 10, et ensuite sur les perspectives et les questions, s'il y en a toujours. Donc moi voilà, je travaille dans ce lieu-là, qui est le Zinc à Montpellier. C'est un lieu qui appartient au XAPA MT Arc-en-Ciel, qui a son siège qui est situé voilà au 10 boulevard Victor Hugo, voilà juste à côté de la place de la Comédie, voilà tout simplement. Voilà, c'est là-bas. Donc il y a une équipe pluridisciplinaire, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Des assistantes sociales, psychologues, médecins, éducateurs. Et il y a une quinzaine d'années, on a voulu voilà créer un lieu pour les jeunes. Donc on avait repris un bar et on a construit un lieu voilà pour les jeunes de 12 à 25 ans, gratuit, confidentiel, anonyme, où les jeunes peuvent venir voir voilà une petite équipe. Voilà, aujourd'hui on est deux éducateurs, une psychologue, une responsable de service et puis des jeunes des fois aussi qui nous donnent des coups de main voilà pour accueillir les personnes qui viennent. Voilà rapidement, parce qu'on va rapidement rentrer sur le sujet. Je laisse ma collègue se présenter.
Et oui, moi je vais rapidement présenter les deux services un peu emblématiques de là où on travaille, que vous connaissez souvent sous le nom de Chorus et de Pause. On a d'un côté, donc dans le même bâtiment, un service d'accueil et d'orientation, où la mission c'est vraiment d'accueillir tout le monde. Tout le monde est reçu dans un bureau par un travailleur social, éducateur spécialisé, assistante sociale, CESF, écouter dans ses difficultés, puis réorienter vers les associations qui pourraient les aider dans leurs problématiques du moment. On a une autre mission, c'est de répondre à l'urgence sociale. Donc ça va être l'orientation vers les associations caritatives pour l'aide vestimentaire, l'aide alimentaire, etc. et l'appel au 115 pour l'hébergement d'urgence. Donc accueillir, réorienter, et puis on a aussi une mission de faire un accompagnement global pour les personnes qui dépendent de notre dispositif, avec un outil de la domiciliation postale qui est vraiment la porte d'entrée pour les personnes sans abri pour l'ouverture des droits. Dans le même bâtiment, alors juste pour les chiffres, je les avais notés pour 2024, c'est à peu près 3000 personnes qui passent chaque année sur un accueil de jour. Sur ces 3000 personnes, on a 1600 personnes qu'on accompagne dans l'accompagnement global, et pour les jeunes, c'est 600 jeunes à peu près. Collé dans le même bâtiment, juste séparé par une petite chaînette en plastique, on a un accueil de jour qui est vraiment là pour répondre aux besoins de première nécessité d'une personne à la rue, donc une personne qui vient à l'ouverture chercher un café, une collation, une écoute du lien social, mais aussi qui vient prendre une douche, déposer ses bagages dans une bagagerie, récupérer des vêtements, avoir un kit d'hygiène, etc. Donc là, c'est en termes de chiffres, sur 2024, parce qu'avant c'était plus, c'est à peu près 55 000 passages par an. C'est passage parce que ce n'est pas 55 000 personnes, les gens ils reviennent, c'est toujours les mêmes qui reviennent, enfin pas toujours les mêmes, mais... Et c'est à peu près 300 passages par matinée. Donc ça fait de lieu du pôle accueil GAM beaucoup de concentration de la question de la précarité. Peut-être j'enchaîne sur l'appel à projet. Donc, quand il y a eu un appel à projet qui s'appelle le contrat d'engagement jeune en rupture, donc vous connaissez sûrement la garantie jeune, après ça a été remplacé par le contrat d'engagement jeune. Et puis, pour les jeunes qui étaient vraiment à la marge, qui n'allaient pas dans les missions locales, pour qui c'était vraiment compliqué d'être sur un emploi du temps, ou en tout cas qui avaient des freins pour y aller, l'État a fait un appel à projet et puis on s'est senti légitime pour y répondre. Et on nous a demandé de nous positionner en consortium, donc un ensemble d'associations pour répondre à l'accompagnement des jeunes. Et donc, on s'est entouré des associations qui nous semblaient importantes pour parler, pour accompagner les jeunes. Donc, on s'est, faut pas que j'en oublie, on s'est entouré de la Vitarelle. Donc, on avait un poste à temps plein sur la question de la maraude et de l'allée vert. On avait un poste à l'Amicale du Nid, ils sont là, j'ai vu, sur la question des violences sexuelles victimes de prostitution et de traite des êtres humains. On avait Passerelle Synergie sur la question de la mobilité. Moins de sens sur la question, enfin il y a eu moins de sens parce que la mobilité à Montpellier elle est quand même accessible. On avait donc nous, GAM, on avait 3,5 salariés. On avait Habitat Jeune où on avait 10 places fléchées uniquement pour les jeunes inscrits en CGR, en ALT FJT. Et on avait Arc-en-Ciel sur la question des consommations. Donc 6 associations en lien avec la mission locale pour travailler ensemble autour de la question des jeunes. Et donc, il a fallu s'entendre, former une équipe, se décloisonner. Et de là est né un petit peu notre travail ensemble.
Et c'est là qu'a commencé vraiment le sujet qu'on veut commencer à discuter avec vous. Hein. C'est une expérience particulière, une expérience où il a fallu qu'on apprenne un petit peu à travailler ensemble. Alors, j'en avais déjà un petit peu parlé rapidement sur une précédente intervention. Là, aujourd'hui, on va essayer vraiment de bien déplier cette expérience-là. Et on a vraiment parlé de processus et d'un décloisonnement parce que chacun est venu un peu avec ses représentations un petit peu sur comment accompagner, comment bien faire les choses. Et il a fallu un petit peu qu'on réfléchisse tous ensemble et qu'on se confronte un peu hein, parfois à comment accompagner ensemble les personnes qui viennent nous voir. Et pour ça, il a fallu, au début, c'est mis en place, on va dire, quelque chose d'assez simple, basique, c'est-à-dire que moi j'étais voilà, l'éducateur spécialisé, voilà, spécialisé des drogues, et qui arrivait et qui avait une permanence posée quelque part dans Corus, et on m'envoyait des jeunes pour pouvoir essayer de les accompagner sur ces questions-là. Et forcément, ça fonctionnait pas terrible. J'avais pas beaucoup de jeunes qui venaient me voir. Les orientations étaient difficiles, soit du côté des professionnels qui me les orientaient, soit de mon côté à moi. Donc on avait un petit peu des difficultés à s'entendre un peu sur la manière d'accompagner, sur nos valeurs, sur plein de choses. Voilà, qui on était confrontés à vraiment énormément de choses. Et là est arrivé un certain nombre d'outils qui nous ont un petit peu aidés là-dedans.
Oui, on a mis en place, du coup, il fallait se voir déjà pour commencer à travailler ensemble parce qu'il fallait quand même dépasser juste l'aspect partenariat. J'appelle le collègue d'une autre association pour l'orienter un jeune. Il fallait qu'on dépasse un peu ça. Donc, on a créé des commissions d'accompagnement tous les 15 jours où se réunissaient tous les membres du consortium, les membres de la mission locale et puis les partenaires de la jeunesse qui étaient le CARUD, l'ADEPAP, le refuge et qui travaillaient avec notre public. Donc ça, tous les 15 jours. Et là aussi, les regards ont commencé à évoluer. Ça veut dire que la question de l'addiction, elle était portée à cet endroit-là. La question de la prostitution, elle était portée à cet endroit-là. On a commencé comme ça. Mais ça ne suffisait pas. Ça n'a pas suffi, en tout cas. Donc, on a proposé aussi à nos chefs, à nos directions, parce que nous, on a dû bouger, mais nos directions aussi, elles ont dû bouger. Parce qu'on a été en demande, on nous a dit, faites un truc créatif, innovant. Mais pour être dans la création, il fallait aussi transgresser de ce qui se passait déjà dans nos institutions. Donc, on a demandé une analyse des pratiques professionnelles inter-institutions.
Et cette analyse des pratiques, alors moi c'est la première fois, hein, moi j'ai déjà fait des analyses de pratiques, mais en général c'est dans nos institutions avec des professionnels qu'on connaît déjà, avec on va dire une institution qu'on connaît à peu près ses règles et tout ça. Et là c'était la première fois que je me retrouvais à faire une analyse des pratiques avec des collègues avec lesquels je travaillais pas forcément tous les jours, avec qui avaient des manières de fonctionner qui n'étaient pas les mêmes que les miennes, pas les mêmes missions que moi non plus. Et donc du coup, il a fallu voilà un petit peu se mettre autour de la table et essayer de se dire qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse réussir à travailler ensemble, qu'on puisse réussir à faire équipe, parce que c'était de ce côté-là aussi que l'intervenante de cette analyse des pratiques venait nous chercher. Voilà, comment faire équipe quand on est de structures différentes? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Comment faire? Comment amener la question du partenariat à un niveau supérieur? Parce que voilà, on va dire, on était tous insatisfaits de la manière dont se passent d'habitude les partenariats. Même s'ils fonctionnent, même s'il y a quelque chose qui tient, etc. Mais il y avait un endroit où ça n'allait pas assez loin pour nous, notamment avec les missions qui étaient les nôtres sur le contrat engagement jeune rupture.
Oui, et puis on avait l'impression qu'on faisait la même chose en s'appelant un peu plus souvent, quoi. On restait dans nos bureaux avec des orientations classiques, mais on continuait de faire la même chose. Et l'objectif d'aller chercher les jeunes en situation de rupture, c'était d'aller chercher les jeunes qui ne venaient pas dans le bureau, qu'on va rencontrer en rue, qui ne peuvent pas se poser deux secondes. Donc il fallait que nous aussi, on puisse aller un petit peu au dehors de ces pratiques-là. Et très rapidement, alors notre intervenante d'APP, elle nous disait « il faut que vous fassiez encore ensemble sans la question du contenant ». Et nous, on revenait quand même très souvent en disant « ouais, on a quand même besoin d'un lieu ». Oui, mais vous n'avez pas les moyens, donc il faut faire équipe, mais sans… Bon, ouais, mais on a quand même besoin d'un lieu. Et il s'avère qu'il y avait un local à Corus, qui était l'ancienne domiciliation postale, auquel ils avaient fait des bureaux pour le CEJ, d'ailleurs. Donc ils avaient fait des travaux 4 mois avant, tout neuf, avec des bureaux qu'on n'investissait pas du tout. Et on leur a proposé de créer un lieu pour les jeunes. Il a fallu les convaincre parce qu'il fallait tout casser et refaire les travaux alors qu'on venait de les faire. Donc on a cassé et on a commencé le bricolage sur un lieu qu'on a nommé le 10, parce que c'est au 10 rue Saint-Claude, hein, c'est pas trop fait chier pour le nom, mais en tout cas les jeunes ont commencé déjà nous à dire le 10, donc les mots comme ça ils arrivent puis sont restés. Et puis tout d'abord on a quand même vraiment bricolé, c'est-à-dire on est allé à Emmaüs avec les jeunes, chercher des trucs, on a pris une télé dans la rue. Notre télé, elle tenait sur une planche en bois avec 2 poubelles. Non mais vraiment, on a commencé comme ça. Donc on ne nous a pas donné les moyens, mais on s'est donné les moyens, nous, d'aller chercher des choses pour commencer à créer un lieu collectif pour les jeunes. Et puis il y avait vraiment besoin, parce que quand on est jeune et quand on arrive dans un lieu comme Corus et Pause, ben, c'est un peu impressionnant. On a 18 ans, il y a des sorties sèches de l'ASE, il y a des parcours compliqués, et on arrive sur un lieu qui brasse beaucoup de monde. Donc on avait envie d'un lieu plus convivial, plus à taille humaine et où le public jeune, fille ou garçon, pouvait s'y investir.
Et donc comme Mélissa le dit, voilà, c'est avec les jeunes qu'on a essayé de construire ce lieu avec le bricolage. Et c'est vrai que souvent le terme bricolage a un côté péjoratif, mais dans cette expérience-là, on a bien vu que voilà, le bricolage, c'est vraiment ce qui permet de se libérer en fait. Se libérer un peu d'un certain nombre d'injonctions de nos pratiques habituelles et d'essayer de faire quelque chose, voilà, d'essayer d'innover, essayer de tenter quelque chose, essayer de prendre un peu de risque avec ces jeunes-là pour essayer voilà, de construire quelque chose ensemble. Et les jeunes, ils nous ont bien aidés à réussir à en faire quelque chose, voilà, qui soit au bon endroit dans cet accompagnement-là qu'on voulait proposer et dans ce lieu-là. Et donc on a construit on a construit ce lieu-là et puis
tout le monde a ramené, les jeunes ont ramené des tables, ils ont ramené, et au début c'était en termes de déco c'était spécial. Et puis on a eu à la fin de l'année, parce qu'il restait un petit peu des sous, on a eu un petit peu plus d'argent, bon j'y reviendrai après, mais pour vraiment meubler le lieu. Mais ce que je veux dire là, c'est que ça passe d'abord par le bricolage. Et après, c'est ce bricolage-là qui a été un peu repris par l'institution en disant « bon, en fait, on va quand même vous donner des sous pour le faire ». Mais c'était intéressant de voir aussi qu'en tant que travailleur social, il faut d'abord aller peut-être proposer avant d'attendre qu'on nous donne la possibilité de faire, quoi.
Et donc, se poser la question voilà, des travailleurs sociaux, des éducateurs qui étaient là, voilà, quelle allait être notre posture, comment est-ce qu'on allait pouvoir faire notre métier. Comment est-ce qu'on voyait un peu les choses. Donc, pour vous donner un peu une idée de ça, bon, on va s'appuyer un peu sur peut-être quelqu'un que vous connaissez, Paulo Freire, pédagogue brésilien, pour ceux qui connaissent, qui a écrit la pédagogie des opprimés, la pédagogie de l'autonomie aussi. Et dans cette phrase-là, qui dit, voilà, personne n'éduque personne, personne ne s'éduque soi-même, les êtres humains s'éduquent entre eux, médiatisés par le monde. Donc cette manière d'aborder les choses, voilà, de manière horizontale, voilà, nous a vraiment aidé à innover en fait, à innover et à se mettre un, et à se mettre à un endroit auquel nous, on était plus à l'aise, en tout cas, par rapport aux valeurs que les uns et les autres partageaient. Et on apprenait des jeunes, les jeunes apprenaient de nous, et on essayait un petit peu ensemble, voilà, d'avancer ensemble et de proposer quelque chose qui soit au bon endroit.
Oui, du coup, sur l'horizontalité, la convivialité, on avait envie qu'il y ait vraiment du vivre ensemble. Et pour qu'il y ait du vivre ensemble, il faut que ce soit un lieu où les jeunes ils se servent. Donc c'était important pour nous. On y a mis quelques codes, qu'on retrouve un peu chacun chez soi pour mettre à l'aise quelqu'un. Enfin, on n'avait pas envie d'y mettre des pratiques qui soient juste institutionnelles. On s'est vraiment juste posé la question de quand on arrive chez quelqu'un, qu'est-ce qui fait qu'on est à l'aise et qu'on s'en accueille. Donc les jeunes peuvent se servir à manger, donc il fallait qu'on propose à manger. Les codes des jeunes, un peu, de récupérer des codes jeunes aussi. Donc en fait, il y a une play, il y a des canapés, il y a un frigo, il y a à manger. Alors, voilà, il fallait qu'on récupère une culture un peu conviviale autour de la bouffe et autour d'un canapé. Et que les jeunes ne nous demandent pas pour accéder à quelque chose, ça c'était important. Ça nous mettait un peu sur le même pied d'égalité. C'est notre lieu et c'est le leur aussi. Pareil pour le règlement. On s'est pas dit, tiens, il faut qu'on fasse un règlement pour éviter tous les risques de débordement et tout ça. Ça, c'était aussi notre volonté d'arriver petit à petit à ce que le règlement se fasse avec les jeunes. Et du coup, voilà, on ne pouvait pas prendre le règlement de pause où il y a 300 personnes chaque jour et puis le coller sur un lieu où il y a 25, 30 passages, 40 passages par jour. Donc c'était, on ne posait rien, on le faisait avec les jeunes. On l'a fait avec les jeunes, ce règlement. D'ailleurs, s'ils étaient force de proposition pour le faire, est-ce qu'on boit ou pas dans le lieu, etc.
C'est vrai que ça c'était super intéressant, de prendre le risque, de co-construire, mais vraiment. On a une occasion de le faire, on a une opportunité de le faire. Faisons-le, voilà, co-construisons, faisons votre... N'utilisons pas les mots pour les mots. Là, c'est vraiment l'expérience qui parle. Voilà, on se pose là et puis on essaie vraiment de co-construire quelque chose. Bon, voilà, là, on reprend le terme du bricolage, hein, c'est-à-dire qu'avec des fois, quand on bricole, hein, des fois, c'est pas exactement ce qu'on voulait, c'est pas exactement comme ça fonctionne pas forcément, les personnes ne se sentent pas forcément à l'aise, alors qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, etc. Mais vraiment, dans cette idée d'un lâcher-prise à certains endroits, ça a vraiment amené une dynamique. Voilà, qu'on a ressenti dans ce lieu-là, voilà, une dynamique où que ce soit les professionnels ou les jeunes qui venaient petit à petit, voilà, ils se sont identifiés à ces lieux-là et ça pouvait devenir à des moments donnés un lieu repère pour eux comme pour nous. Et on pouvait commencer à cheminer ensemble et à faire un petit bout de chemin. Donc vraiment, cette idée-là, voilà, le jeune rentre, on lui présente les lieux, on lui dit, voilà, là, il y a le frigo, tu te sers. Là, il y a le café, si on a besoin, tu te sers. Voilà, là, il y a des jeux. Là, il y a tel professionnel. Voilà, tu t'installes là. Et puis, c'est parti. On va dire les choses commencer simplement et commencer comme ça. Alors... Forcément, une fois que les personnes arrivent, et que le lieu est mis en place, maintenant c'est la question du temps. Et c'est pas forcément la chose la plus simple. Hein. Tout simplement se poser avec l'autre et vraiment être avec l'autre et vraiment prendre ce temps-là, prendre ce temps de la rencontre, prendre ce temps de se connaître. Et de tisser un lien qui on a mis à vitesse humaine, parce que c'est vrai qu'on avait cette impression là, en tout cas, que dans le social parfois on était beaucoup limité à l'entretien individuel. Donc on a un rendez-vous à telle heure, ça dure 45 minutes, une heure dans le meilleur des cas, sinon ça va être plutôt une demi-heure, un quart d'heure, etc. et donc il y a une injonction à la rencontre à ce moment là que la personne aille bien, aille pas bien, etc. donc non, là les personnes peuvent se poser, ils ne veulent pas parler, ils prennent le temps de regarder un peu autour d'eux, regarder qui est là, etc., etc. Et même pour nous, ça nous enlève aussi de la pression aussi de notre côté. On a le temps de rencontrer l'autre, on a le temps de... Voilà, on se pose et à un moment donné, on ira le rencontrer, on ira commencer à tisser quelque chose.
Oui, et puis ça nous a permis de sortir de la relation d'accompagnement qui est problème, solution, besoin, réponse. Là, si les jeunes voulaient venir faire une sieste, venir jouer à la play pendant 2 heures, en fait, il n'y avait pas de demande du tout, quoi. La demande, c'était juste, en tout cas, le besoin, c'était juste de trouver des potes. Et nous, on s'était dit qu'on allait prendre ce temps et que quand la demande allait émerger, là, il allait y avoir les professionnels pour pouvoir la travailler. Mais du coup, voilà, on sortait du bureau où en fait, il ne peut pas ne rien se passer dans un bureau. On ne peut pas juste faire chacun notre truc, être ensemble à la même pièce, ce n'est pas possible. Sur un lieu collectif, on peut attendre que cette demande, elle émerge. Donc, prendre le temps et vraiment beaucoup de temps. C'est-à-dire que ce n'est pas deux, trois fois, quoi. Enfin, vraiment, je tiens à insister sur la question de la longueur. Y a des jeunes qui ont formulé une première demande au bout d'un an. Un an d'investissement du 10 et tout ça. Donc, c'est un an où ils viennent trois fois par semaine sans rien demander. Ça n'existe pas en bureau. C'est trop compliqué. Il ne peut pas se jouer ça. Sinon, on a l'impression qu'on n'a pas avancé. Puis l'éducateur, il en a marre aussi du jeune qui ne demande rien dans un bureau pendant un an. Là, en tout cas, c'est possible. Donc prendre le temps, c'est la question de la temporalité, c'est important.
Et du coup, forcément, la question de l'aller vers. Alors on a mis aller vers, venir vers, parce que c'est vrai que la question de ce lieu-là, ça venait un peu mettre les choses à un autre niveau. C'est-à-dire que moi, qui suis pas de Corus, qui était un travailleur d'arc-en-ciel, lorsque les jeudis après-midi, j'allais au 10, eh ben je venais vers le 10, comme les jeunes venaient vers le 10, comme les autres professionnels, les autres structures venaient vers le 10. On se reconnaissait tous dans ce lieu-là et on convergeait vers ce lieu-là et on s'y retrouvait, on se posait et on passait un moment ensemble. Voilà, c'était de 14h à 17h. Et on se posait là, et voilà, et allait s'y passer ce qui allait s'y passer. Et c'est vrai qu'il y avait un éducateur qui était aux Incarvois et qui parlait du laisser venir, c'était Pierre Brousse, et qui parlait souvent de aller vers et laisser venir. Donc aller vers, c'est pas non plus s'imposer à l'autre et être tout près de lui et vouloir lui parler tout le temps à tout prix, etc. Il faut savoir aussi respecter le rythme de l'autre et son propre rythme aussi. Et donc c'est laisser venir aussi, voilà. De toute manière, le fait d'être dans un même espace, on se voit, on s'acclimate, voilà, aux présences, et à un moment donné, on peut mieux parler, mieux se poser, mieux parler ensemble, et mieux tisser du lien. Alors, Mélissa et moi, on s'est beaucoup retrouvés sur une référence, donc c'est pour ça que je te l'ai laissé la lire d'ailleurs.
Alors, je ne suis pas Augustin Trapenard, mais oui, on s'est vachement retrouvés sur Deligny. Alors, moi, je viens aussi des lieux de vie. Donc, quand on a fait le 10, voilà, ça nous inspirait pas mal. Je vais la lire. Si tu veux les connaître vite, fais-les jouer. Si tu veux les faire vivre, fais-les jouer. Si tu veux faire ton métier, fais-les jouer, jouer et jouer. Donc voilà, parce que pour Deligny, c'était aussi ce qui nous traversait, c'était l'idée de désenclaver l'action éducative complètement et l'idée que la vie des institutions, en tout cas ce qui fait tenir, à supposer que ça tienne, c'est les interstices, les moments d'improvisation, les jeux, les fous rires, les moments où on raconte aussi de nous, les éducateurs spécialisés, nos anecdotes, nos déceptions amoureuses et tout ça, et que c'est à cet endroit-là aussi que se joue toute l'action éducative. Alors évidemment qu'il faut aussi le mêler parfois, il faut faire sa CNI, et sa C2S, etc., etc. Mais en tout cas, c'est tout ce qui sort de nos missions et qui ne sont pas écrits sur nos missions et nos fiches de travail qui font, qui font la vie institutionnelle. Et ça, c'est ce qui se passe beaucoup aussi sur les lieux d'accueil collectif. C'est des échanges et de la vie, en fait. Et pour se faire confiance, il faut quand même pouvoir se reconnaître, être regardé par l'autre autrement qu'à travers le regard de ma problématique d'addiction, ma problématique d'absence de droit, etc., etc.
Et c'est vrai qu'on a passé vraiment des moments épiques, hein, où j'ai pu jouer à la PlayStation avec certains de ces jeunes, à Street Fighter, à FIFA, je suis très nul à FIFA d'ailleurs. Et jouer et puis passer des bons moments, voilà, de rigolade, de tension aussi, de suspense. Et aux échecs aussi, on jouait pas mal aux échecs, on mangeait beaucoup de grignotage dans tout ça. Et c'est vrai qu'on en parlait un peu, alors je sais pas si je te laisse pas, sur la question de la nourriture.
Vas-y.
Ouais. Sur la question de la nourriture aussi, le fait de partager voilà, cette nourriture, la même nourriture. Hein. Ce n'est pas une nourriture qui leur est donnée à eux et qui ne serait pas consommée pour nous. Non, c'est la même nourriture. On est sur un point d'égalité, on partage quelque chose, voilà, et c'est de manière très simple. Ça aussi, ça amène une convivialité, une proximité très intéressante. Hein. Et souvent, c'est vrai qu'en rentrant dans ce lieu-là, on peut se dire, ah, tiens, on voit un éduc qui joue et qui est en train de grignoter avec un jeune, là, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, dans ces moments-là, se tisser l'essentiel. l'essentiel du travail qu'on allait pouvoir faire plus tard et puis peut-être voilà, des moments difficiles ou pas voilà, qu'on allait traverser ou de ce qu'ils allaient être amenés à nous confier, à nous confier plus tard s'ils le souhaitent. Et donc beaucoup, ça s'appuyait beaucoup sur ces temps-là, beaucoup sur ces temps voilà, où ils n'étaient pas objets, ils n'étaient pas voilà, des jeunes qui sont là pour consommer notre accompagnement, voilà, il faut qu'ils viennent faire quelque chose. Non, ils sont sujets, voilà, et on l'est aussi. Et on se rencontre et on voit à un moment donné s'il y a quelque chose ou pas hein, qui match et qui nous permet voilà, de faire un bout de chemin ensemble. Donc ouais, ces moments-là, ils étaient
d'ailleurs, un des critères d'évaluation, que c'était un peu l'horizontalité, c'est que les voisins, ils ne savaient pas qui était éduque, qui était jeune. Et à chaque fois, ils venaient me voir, je faisais un peu plus vieille, en disant, mais qui éduque, qui sont les jeunes? Et donc, tant mieux. Enfin, nous, on s'est dit, bon, c'est que ça marche bien. On est aussi assis par terre avec les jeunes, à leur niveau, à leur endroit, quoi. Il y a ces actions, enfin, en tout cas de vie ensemble, qui ont lieu dans le 10, mais ça a donné lieu aussi à des actions à l'extérieur du 10, parce qu'on a mis une grande affiche pour savoir ce qu'ils avaient envie de faire. Donc on est parti à la rivière ensemble, on est parti au cinéma, on est parti faire des musées, on est parti se balader, enfin la vie quoi.
Et là on a mis ouais, vivre ensemble et prendre soin, parce que tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, tout ça c'est déjà du soin. Tout ça, c'est déjà de l'addicto. Tout ça, c'est déjà de l'accompagnement social. C'est les fondements, c'est ce qui m'a permis après de passer à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire moi, quelque part dans un bureau dans Corus, en train de faire une permanence et avec des personnes qu'on m'envoie, à ce partage de vie, voilà, et de quotidien, voilà, tout. Tous les jeudis après-midi où je venais et où je tissais du lien avec ces jeunes-là et où à un moment donné voilà ben quelque chose se passait et on pouvait voilà faire un bout de chemin ensemble. Donc rapidement je voulais parler un petit peu de l'intervention précoce parce que voilà c'est le XAPAR Cancel est affilié à la Fédération Addiction. Et pendant longtemps, le président de la fédération à addiction a été Jean-Pierre Coutron, voilà, qui avait parlé de pas mal de choses, dont la société addictogène, dont je vais parler juste après. Mais du coup, dans la méthode d'intervention, il y avait beaucoup cette idée, voilà, que ça, il fallait d'abord, avant tout, créer un environnement favorable pour ensuite pouvoir repérer les usages problématiques, parce que tous les usages ne sont pas problématiques, et ensuite d'évaluer les addictions pour ensuite organiser la prise en charge thérapeutique si besoin et si voulu, si désiré. Le 10 est venu vraiment répondre à cette question-là de la création d'un environnement favorable. Et on en parlait un peu tout à l'heure, hein, mais la question du contexte, hein, bien sûr que la question des drogues vient s'inviter dans un contexte de société de consommation, hein, une société voilà qui valorise, mais aussi hein, toutes ces questions d'addiction. Comme on disait tout à l'heure, elle veut qu'on soit un certain type de consommateur. Hein, voilà, les pubs sur le téléphone portable, ouais, c'est super addictif, c'est super fort, c'est super bon. Allez, prenez-en les jeux vidéo, etc. ou d'autres produits. Mais en tout cas, c'est sûr que dans une société de la domination du tout et tout de suite, dans une société où il y a la culture de l'intensité, de l'excès, de l'accès à l'immédiat, une compétition, un stress, et où on disqualifie bien sûr l'échec et l'ennui, et avec en plus des perspectives économiques anxiogènes, on ne parle même pas de la question de toutes les guerres qu'il y a autour de nous et tout ça qui viennent créer des anxiétés majeures. Donc forcément, la drogue vient faire voilà, un moyen d'adaptation à tout ça. Comment tenir dans un contexte aussi particulier, et ben la drogue et la société de consommation, là de ce côté-là, elle se marie assez bien. Et donc après, les jeunes se retrouvent coincés dans des discours assez paradoxaux. Donc du coup, tout le travail qu'on a énuméré avant avec la création de ce lieu, cette manière de travailler ensemble avec des outils différents et le fait de prendre le temps, voilà, nous donne l'occasion de l'orientation spontanée qui est trop souvent oubliée. trop souvent oublié. C'est-à-dire qu'une personne peut elle-même, à un moment donné, demander si elle a besoin ou pas, voilà, d'un coup de main. Elle a pas toujours besoin, voilà, même si autour de soi, voilà, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Et notamment, voilà, c'est avec les jeunes qui sont à la rue. Nous, on est face parfois à des situations de grosses inquiétudes pour la vie, de grosses inquiétudes sur des parcours où ils sont très abîmés et tout ça. Mais même dans ces situations-là, j'ai presque envie de dire, surtout dans ces situations-là, il faut prendre le temps, voilà, parce que les personnes sont dans des situations de fragilité, de sensibilité forte. Et donc, il faut apprendre à comprendre, à se comprendre aussi face à nos réactions, face à des parcours aussi cabossés, et laisser retomber tout ça pour être au plus juste, voilà, de ce que la personne a besoin.
Oui, et puis ce que ça nous a également apporté, surtout sur la question de la temporalité du jeûne, et c'est là où, bon, si vous avez bien compris, c'était ouvert pas tous les jours, mais 3 jours par semaine, avec du coup tous les membres du consortium qui intervenaient à des moments différents. Ça voulait dire aussi que quand le jeune formulait la demande, eh ben, il y avait forcément l'éducateur qui était là 2 jours après pour avoir un entretien. Aujourd'hui, si on veut orienter vers le XAPA, eh ben, c'est 4 mois d'attente. Donc si un jeune, à un moment donné, il exprime le désir d'aller prendre soin de sa santé à cet endroit-là, on peut appeler, c'est 4 mois d'attente. Alors, notre taf, c'est aussi de maintenir le désir. Mais c'est pas pareil de maintenir le désir pendant 2 jours que de le maintenir pendant 4 mois. Pareil pour l'Amicale du Nid. S'il y avait une jeune qui parlait à un moment donné de la question de la prostitution, bah, les délais d'attente, c'est 9 mois, non, maintenant, je sais pas, pour avoir un rendez-vous à l'Amicale du Nid. Donc, entre le moment où la jeune parle de cette problématique et au moment où elle voit la première personne, il y a un délai de 9 mois. Autant, il faut laisser le temps avant de la rencontre, de l'accompagnement et tout ça. Autant quand le jeune il est prêt, bon là, faut pas non plus attendre 1000 ans. Et là, on est du coup, c'est complètement inversé dans la vie institutionnelle auquel on est confronté. C'est qu'on propose tout de suite l'accompagnement avant la relation de confiance. Et le jeune, enfin voilà, c'est tout ça pour vous dire que là, ça nous a aidé à être très réactifs face à la demande des jeunes. Et ça, c'est un enjeu. Je pense qu'il faut gagner en réactivité à un endroit.
Parce que c'est sûr qu'il y a une différence entre le jeune vient nous demander quelque chose, donc du coup là, il y a une réponse à donner, et l'inverse qui est nous, on a identifié un besoin, mais il n'y a pas de demande, et à un moment donné, on veut répondre au besoin avant même qu'il y ait une demande ou avant même que la personne soit prête. Donc il y a vraiment cette différence-là, subtile mais pas facile, hein, parce que c'est sûr qu'il y a des situations qui créent une inquiétude majeure, d'accord ? Mais il y a un endroit où il faut réussir à manier ce temps-là pour réussir à l'étirer et à permettre, voilà, de ne pas être violent dans nos propositions, de ne pas tendre des guet-apens, du soin, voilà, où on force la personne à se soigner, etc. Donc réussir à mailler quelque chose avec la personne et à étirer pour vraiment que les rencontres humaines, voilà, aident un peu à être au bon endroit de ces demandes. Et tu voulais rajouter quelque chose là-dessus ? Non, c'est bon. Et du coup là, on a mis orientation, proposition d'accompagnement, parce que c'est que à ce moment-là que vraiment il y a l'orientation. Voilà, c'est après tout ce qu'on vient de décrire que vraiment l'orientation a lieu. Et c'est vrai que souvent, nous, quand on fait des formations en addictologie, voilà, les personnes nous attendent, les professionnels nous attendent souvent d'abord sur les produits, d'abord sur tout de suite comment faire, etc. Et souvent, on leur dit, attendez, d'abord, on va essayer d'abord de construire un environnement favorable. D'abord, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut prendre le temps avec la personne, comment on va vous aider aussi à faire avec les inquiétudes pour avancer et puis commencer à construire quelque chose avec l'autre pour pas que l'inquiétude vienne écraser, voilà, tout ce qu'est l'autre, hein, et lui laisser un espace. Voilà.
Et puis sans le... Alors, ce n'est pas des termes théoriques qu'on maîtrise trop, mais ça nous a fait penser aussi à ça. Le consortium, on travaillait entre 6 associations, ça nous a fait penser aussi à la clinique de concertation. Et en fait, on a réussi à un endroit, sans s'en rendre compte, à prendre le jeune dans les différentes dimensions de sa vie, à la fois celui de la rue, à la fois celui de ses problématiques, et de pouvoir y répondre au moment donné, à un moment donné où le jeune était prêt à y répondre. Et c'est peut-être un des enjeux aujourd'hui, maintenant qu'on a cette expérience, de faire maintenir ce travail-là. On en est sur les enjeux.
On est sur les enjeux, alors...
Et les enjeux... Alors nous, on a... Donc le CEGER s'est terminé le 31 décembre 2025. Fin des subventions, parce que ça n'a pas été un franc succès dans toute la France. À Montpellier, ça a été super, mais il y a des endroits où ça n'a pas marché du tout. Donc ils ont stoppé net, et puis ça a été remplacé par un projet O2R, qu'on a appelé le projet ZERA. Donc plus de consortium. Nous, on est parti seul, GAM, et donc on perd beaucoup dans le jeu. On a gardé le lieu du 10 ouvert. On reste sur les mêmes, hein, jeunes, éloignés des institutions, qui cumulent plusieurs problématiques de logement, de consommation, de santé. On va faire de l'insertion sociale et pas de l'insertion professionnelle. On va lever les freins, etc., avec un outil comme le 10. Et les perspectives quand même que moi je voyais et qui peuvent servir quand même de notre expérience, c'est la nécessité peut-être d'organiser de l'APP interinstitutionnelle. Je regarde le SIAO, parce qu'il y a vraiment cette idée-là, parce que pour sortir et pour être créatif, il faut sortir de son institution, en fait. Sinon, on se redire les mêmes choses. Enfin, on le voit, nos APP, elles ressemblent à peu près toutes à la même chose. Et des APP institutionnelles, c'est rare que naissent de l'innovation, de la créativité. Par contre, quand il y a d'autres gens avec d'autres écoutes, et tout ça, où il n'y a pas d'enjeu d'équipe, et là, la créativité, l'innovation, elle apparaît davantage. Donc la question des APP et la question peut-être d'un réseau, je regarde encore la vidéo, d'un réseau jeunesse précaire à Montpellier qui n'existe pas, parce que nous on a envie de garder ces échanges qu'on avait avec tous les acteurs de la jeunesse à Montpellier. Et voilà.
Et nous du côté du XAPA Arc-en-Ciel, alors ce qu'il faut bien savoir, c'est que moi j'avais été positionné sur cette mission-là. Suite à l'absence d'un collègue du XAPA Arc-en-Ciel, et on m'a demandé à moi qui suis sur les 12-25 ans d'intervenir, donc c'était une partie de mon public, donc 18-25, et donc sans financement et tout ça, donc moi j'ai été remis sur d'autres missions, mais on sent clairement qu'il y a un manque. Voilà, pour pouvoir réussir à faire ce travail-là, et on a senti et on a testé pendant 2 ans et demi à peu près, 3 ans, une formule qui fonctionnait. Et donc maintenant, c'est comment, vu qu'on est de retour dans le partenariat classique, je veux dire, voilà, comment est-ce que ce qu'on a appris de ce partenariat particulier, voilà, qu'est-ce qu'on peut en garder, qu'est-ce qu'on peut réussir à en refaire, qu'est-ce que les uns et les autres, même vous, hein, dans vos structures, vous pouvez, c'est pour ça qu'on voulait aussi pouvoir témoigner de cette expérience-là. Comment est-ce que vous aussi, vous allez pouvoir, voilà, vous saisir d'une partie de tout ça pour se dire, bon, ok, en fait, le partenariat, on peut réussir aussi à faire équipe avec d'autres institutions et avoir des moments de travail ensemble, comme par exemple l'analyse des pratiques ou d'autres choses, ou des fois même partager un lieu particulier, voilà, parce que des fois, on ne sait jamais d'où sortent les financements et tout ça, et pour pouvoir, voilà, permettre voilà, de mieux être présent pour les personnes qu'on accompagne, voilà, au jour le jour. Donc du coup aujourd'hui on en est là un petit peu, voilà, comment est-ce qu'on va réussir un petit peu à faire grandir les fruits. Alors comme tu as dit, il y a le lieu, alors après c'est vrai qu'on avait réussi aussi à faire une permanence médicale au sein du 10 aussi, ça fait partie aussi des outils qu'on a pu rajouter par la suite, voilà, une permanence médicale aussi dans le même esprit, hein, c'est-à-dire que voilà, quand ils venaient, ben moi j'étais posé là en train d'écouter de la musique, du rap, du reggae, tranquillement posé, ils buvaient leur café et puis après, ah tiens, le médecin est disponible, c'est parti, et ils allaient voir le médecin, ils allaient le voir, et il y a plein de personnes qu'on n'a jamais réussi à faire voir un médecin, qui ont pu voir un médecin de manière détendue, en se sentant écouté et pas en ayant l'impression d'avoir vécu un moment de violence. Donc ça, c'est important parce que beaucoup de jeunes, hein, nous décrivent des moments pas faciles quand ils vont vers le soin. Donc voilà, un peu faire mûrir ces fruits-là. Et donc, oui, quelques photos quand même. Peut-être une petite photo parce que vous pouvez vous imaginer quelque chose de grand. Donc là, on voit, c'est l'entrée, d'accord, on a posé les canapes. Donc il y a il y a une jeune qui nous a donné le drapeau qui est sur le côté. Sur la gauche, vous voyez quelques panneaux d'affichage. C'est là que les jeunes venaient afficher aussi. On affichait, voilà, ils nous marquaient les idées un petit peu de ce qu'on pouvait y faire. Tout au fond, dans la pièce, il y a une autre pièce qui est sombre là-bas au fond. C'est la pièce où on jouait aux jeux vidéo. Voilà, où on se posait, où on prenait un petit encas aussi. Voilà, donc ça n'a pas toujours été comme ça. Au départ, c'était plutôt du bricolage, hein, des armoires.
Ah oui, c'était pas
des armoires, des armoires un peu bricolées et tout ça. Et il manque encore une pièce que j'ai pas montrée, c'est la pièce de l'entretien individuel, voilà, qui est sur le côté, qu'on voit pas. J'ai oublié de mettre la dernière photo.
C'est tout petit. Alors au début, on pensait que ça allait peut-être être une contrainte, et en fait, ça s'est avéré être super que ce soit petit. Parce que je rappelle qu'on travaillait avec les jeunes du coup en rupture, donc très souvent des jeunes qui posaient problème sur des institutions et qui étaient exclus. C'était beaucoup plus facile sur le 10 de maintenir l'énergie d'un jeune parce qu'elle ne venait pas y chercher un service. Elle venait y chercher un moment de partage, elle rentre, elle sort quand elle veut. Et du coup, ça nous a permis aussi de travailler avec des jeunes qu'on n'avait pas travaillé sur nos grandes institutions.
Et c'est vrai que la prolongement du 10, c'était le devant du 10. Hein. Donc on était souvent devant, en train de discuter, voilà, les entrées-sorties, voilà, qui se font avec forcément plein d'enjeux aussi avec le voisinage. Hein. Forcément, il faut pouvoir accepter aussi, voilà, ces populations-là, qui sont souvent montrées du doigt. Mais du coup, ça permettait, voilà, cette proximité-là permettait pas mal de rencontres. Et donc, avant les questions, on voulait juste finir, voilà, sur cette dernière petite citation, voilà, de Joseph Roussel, voilà, qui a été éducateur, qui est aussi psychologue, et qui dit, voilà, vous connaissez sans doute, qui est à Montpellier, voilà, les éducateurs fabriquent de l'humain. On a beau essayer de neutraliser, de maîtriser la relation éducative en la parant des habits du management, de la gestion des populations ou de l'ingénierie sociale, l'acte éducatif repose toujours sur une rencontre humaine. Merci.
Merci. C'est bien passé, merci. Ah oui, il y a des questions. Je pense que ça pète.
D'avoir monté ce projet-là et je vous remercie parce que c'était très intéressant. J'avais une question, quelle était à peu près la moyenne d'âge des jeunes que vous receviez et est-ce que c'était en majorité des garçons ou plutôt des filles?
C'est une très bonne question. La moyenne, après j'ai 18-25, ça te va comme moyenne? Non, je ne peux pas te dire la moyenne, c'était en mixité. Le jeudi, en mixité, c'était principalement fréquenté par des hommes, comme ma pause. Et puis nous, très rapidement, on a créé une permanence le vendredi après-midi, que pour les femmes, accompagnée et co-animée que par des professionnels femmes, à la fois dans la construction du projet, c'est-à-dire qu'on avait aussi nos collègues hommes qui voulaient donner leur avis sur comment on allait mener cette permanence. Donc ils en étaient aussi exclus, c'est important, parce que des fois, quand les projets sont menés aussi par les femmes, c'est intéressant ce que ça donne. Donc le vendredi après-midi que pour les femmes, et le jeudi en mixité, et bon, on pourra en parler beaucoup aussi de ce qui se passe le vendredi après-midi avec les femmes, et vraiment ce besoin-là de se retrouver entre femmes, il se passe des choses très riches, on ne parle pas du tout de problèmes. On parle vraiment de vie, de nos règles, du génico, de notre ex. Il se passe des choses vraiment fortes. Et puis quand il y a une personne qui a, à un moment donné, qu'on menait avec la Michael Duny, et puis quand il y a une jeune femme qui exprime à un moment donné une demande vers l'accès aux soins, voilà, on est présent pour lui prendre un rendez-vous et l'accompagner. Mais il se passe vraiment des choses de l'ordre de la vie, de qu'est-ce que c'est être une femme en France en 2025.
D'autres questions?
Je me demandais ces personnes-là sont passées où? Le fait que votre structure soit fermée, donc pour vous, ça peut
Non, le 10 est resté ouvert. Le consortium s'est terminé, c'est-à-dire le fait de travailler ensemble de 6 associations sur un lieu. Par contre, nous, à GAM, on a laissé ouvert le lieu du 10. Et maintenant, on y invite le CARUD qui intervient le jeudi. Voilà, mais le 10 est ouvert encore. Et les jeunes, nous, on les accompagne effectivement jusqu'à, c'est une bonne question, jusqu'à ce qu'ils obtiennent un lieu d'hébergement ou de logement stable. Mais là, on parlait de temporalité tout à l'heure, il faut avoir le temps et beaucoup de temps avant que ça arrive. Donc ils sont toujours là, les jeunes. Certains non, hein, parce que là, on n'a pas parlé de jeunes qui s'étaient, parce qu'on travaille beaucoup avec la discontinuité chez les jeunes. Ils partent, ils reviennent, etc. Donc on a des groupes qui arrivent, qui restent un mois, on les voit beaucoup, puis ça s'en va, puis c'est d'autres jeunes et tout ça, puis il y en a qui reviennent. Et c'est ça qui est chouette avec le 10, c'est que là, on a assez de temps pour se rendre compte que les gens reviennent. Ils partent un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, puis ils reviennent sur le 10 quand ils sont de retour sur Montpellier. Ça, c'est là où c'est déjà un pari gagné.
Et excusez-moi,
quand
j'ai vu
que
vous avez marqué à un moment donné 12-25,
vous n'en
parlez pas.
Ah, mais parce que
parce que moi, je suis dans un lieu qui s'appelle Le Zinc, qui travaille avec les 12-25 ans. Donc, du coup, c'est sûr que moi, quand j'allais au 10, forcément, il y avait une partie de mon public que je ne retrouvais pas, c'était les 12-18. Mais c'est vrai que le fait que le consortium se soit arrêté, moi, il y a une partie des jeunes que je revois parce que dans le cadre d'accompagnement qui ont été mis en place, et comme il y a une confiance qui a été tissée, donc du coup, ils viennent me voir au Zinc. Mais il y a toute une partie des jeunes, moi, que je ne vois plus. Et plein d'autres professionnels, plein d'autres structures ne voient plus ces jeunes-là. C'est vraiment plus que les professionnels de Zera qui sont dans le 10 maintenant, qui sont vraiment en contact. Et donc du coup, d'où le nouveau challenge qui est, mais maintenant, comme on n'a plus ces outils-là de travail en équipe interinstitutionnelle, eh ben comment faire pour que nous, on puisse les voir, comment faire pour que le partenariat et les orientations se fassent, tout en respectant tout ce qu'on a dit tout à l'heure, le rythme des personnes et tout ça. Donc oui, c'est un véritable enjeu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y avait la question de la discontinuité. C'est vrai que ça, on en avait pas parlé, mais c'est vrai que c'était Chobo, c'est ça, qui en avait parlé sur un colloque, et ça nous avait fait écho. C'est comment est-ce que avec les jeunes qui sont à la rue, et ben souvent on se retrouve à faire des accompagnements qui commencent puis qui s'arrêtent, on les voit plus, et ils reviennent, et le fait d'avoir ce lieu là en tout cas, ça nous permettait, nous, d'être dans une continuité malgré que des fois ils soient pas là. On reprenait là où ils en étaient avec d'abord un petit temps où on se pose avec eux, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que tu étais, etc. Et on pouvait reprendre là où ils le souhaitaient, l'accompagnement, et ça facilitait, je trouvais, le travail en discontinu, parce que souvent, ils étaient en déplacement un peu partout en France, parfois même en Europe, et ça facilitait notre accompagnement.
Oui, et puis le fait que dans ces lieux-là, on y change autre chose que de la demande. On s'est vite rendu compte aussi que les jeunes, la question qui revient, c'est quand même la question de l'hébergement. Ça, elle apparaît fort comme demande. Par contre, la question de régler les difficultés liées aux consommations, ça, on n'y avait pas trop à faire. Enfin, on a face à des jeunes qui vivent aussi, à part la question de l'hébergement, je ne dis pas que c'est joyeux, hein, mais aussi la vida loca et la best life. Il y a des jeunes qui sont aussi dans des expérimentations d'un mode de vie, de défense, alternatif et tout ça. Qui part un problème pour eux. La question de l'hébergement, par contre, ça, c'est un problème. La question de dormir dehors, d'être en sécurité, de ne pas se faire voler ses affaires, et tout ça, ça, c'est un problème, et ça dégrade. Par contre, la question des consommations, pas du tout. Et puis, nous, c'est difficile de juger à quel moment on arrive aux mésusages. Enfin, je pense qu'on est tous dans cette salle aussi... On est tous consommateurs, beaucoup en tout cas, consommateurs d'alcool et autres. Donc à partir de là, le seul moyen de dire que la personne est en mésusage, c'est quand elle formule l'idée qu'elle peut-être là, en a un petit peu marre et que c'est peut-être trop. Voilà.
Bonjour, vous avez une question. Merci pour votre intervention et pour l'expérience.
Et je voulais savoir si vous
pouvez oublier
de consommation d'alcool.
Ça, c'est intéressant. Oui, on autorise la consommation d'alcool sur les lieux. D'ailleurs, il y a une expérience donc, qui est super intéressante qu'on a menée. On avait fait une fête du 10. Voilà, c'était un moment où ça faisait les 2 ans ou un an du 10. Et on fêtait les 1 an du 10 et on s'est dit, bon voilà, bon, on va sortir les tables et on va sortir un petit peu un apéro et puis on va sortir l'alcool. Et on s'est posé la question, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sort l'alcool ou pas? Et comment ça va se passer? Bon, après moi, je me suis dit, bon moi je me tiens peut-être pas toujours mieux qu'eux, hein, donc, sur la question de l'alcool, bon, on va dire. On va la laisser et puis on va voir et puis en plus moi qui travaille dans la dicto, je trouve que mes collègues voilà à Corus m'ont bien aidé là-dessus à lâcher prise un peu et on a lâché prise et ça s'est bien passé, voilà, il n'y a pas eu de souci, c'était un super moment festif de consommation d'alcool notre société on s'imagine être culturellement voilà dans nos sociétés. Dans notre société, donc je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
La règle, c'est qu'ils rentrent et qu'ils prennent un gobelet pour qu'ils puissent mettre leur alcool, pour que ça permette aux gens qui sont aussi en processus de soins de ne pas être tentés et tout ça. Donc dans un gobelet opaque, ça se voit pas. Donc ça, c'est la règle. Et puis, bon, c'est comme tout règlement, enfin, l'alcool est interdit. Mais nous, ce qu'on ne voulait pas, ce n'était pas ça, c'était l'ébriété, en fait. Donc il y a toujours la question de la règle et puis après, il y a l'esprit de la règle. Donc nous, on est plutôt du côté de l'esprit de la règle et ça nous permet aussi de saisir les jeunes. Enfin, je veux dire, si on les choque pas, là, enfin, si on n'en discute pas au moment où ils en ont envie, au moins ils sont dans ces questions-là, on ne sert plus à rien, quoi. Donc c'est autorisé, alors parce que c'est autorisé et que c'est légal. Hein. Par contre, le reste, non, y a pas, ça ne prend pas des traces de coke sur la table. Mais bon, voilà.
Et ça permet, alors pour moi qui travaille dans Axarpa, ça permet d'avoir un lieu intermédiaire, hein, parce que c'est vrai qu'on a eu au XAPA aussi un moment où on réécrivait le projet d'établissement et on a invité des personnes accompagnées à nous aider à réfléchir un peu sur ces questions-là pour sortir un peu de nos questionnements. Et on a eu des discours très, très, très divers hein, sur cette question-là. On a eu aussi bien le discours de « il n'y a pas de souci par rapport à ça », pourquoi même se poser la question non moi quand je viens au XAPA et que je fais un effort sur ma consommation, j'ai pas envie de voir quelqu'un consommer parce que ça va me créer du craving. Donc ça dépendait vraiment des personnes, c'était très varié. Donc du coup c'est pour ça que la solution voilà de consommer dans le verre ça en tout cas ça a fonctionné à ce moment-là en tout cas. Sur notre expérience à nous ça a fonctionné.
Et puis après, j'ai envie de dire, si on se risque à rien, on n'expérimente rien, quoi. Donc forcément, à un moment donné, on s'est risqué à des choses qui n'étaient pas autorisées par l'institution pour se rendre compte qu'en fait, ce n'était pas problématique. Donc si on regarde et qu'on ne peut pas innover, créer, imaginer, si on regarde que par le prisme de qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, voilà. Donc nous, on s'est dit, on expérimente, on voit. Et c'est cool parce qu'on nous a laissé faire, surtout.
Ah ouais. Donc c'était hors cadre institutionnel, mais avec l'autorisation de l'institution.
Il y a d'autres questions. On va passer à la pause. Et Mélissa, pour te répondre, on a entendu ta demande.
C'est pas que la mienne, hein.
Merci.